I'd like to have a democracy.
Élections municipales 2020 sur Radio PFM 99.9 libre et sans pub. En collaboration avec La Voix du Nord à Arras, on vous propose une série d'interviews des candidats à Arras. Avec moi pour mener ces interviews, Hubert Ferré, journaliste et chef de rédaction adjoint à La Voix du Nord à Arras. Salut Hubert.
Salut Nico.
Et nos premiers invités dans cette série, la liste décidée pour Arras, liste citoyenne soutenue par La France Insoumise. Le binôme hein, des têtes de liste, Robert Rocher, Natacha Galiego, bonjour à vous.
Bonjour.
Bonjour.
Un homme, une femme, candidature bicéphale, c'est assez inédit. À Arras, ça n'a pas posé de problème administratif en préfecture, cette double candidature ?
Administrativement, non, au niveau préfecture, aucun souci, parce que de toute façon, il fallait un numéro 1 et un numéro 2, et donc ça s'est fait comme ça. Par contre, les petits soucis, les petites difficultés qu'on a rencontrées, c'est vrai que c'était compliqué pour les médias de comprendre que c'était bicéphale, qu'il y avait forcément, lorsqu'on était à deux, lorsqu'on nous demandait une interview, l'objectif, nous, c'était d'y aller à deux. C'était compliqué parce que justement, les autres listes n'ont donc qu'une seule personne référencée. Nous, c'est notre mode de fonctionnement, quoi. Bicéphale, un homme, une femme, qu'on retrouve aussi bien au niveau de la direction de campagne, où c'est un homme et une femme, qu'aussi bien au niveau du mandataire financier, où on a un homme et une femme. Voilà, on a toujours voulu jouer sur cette parité.
Alors, quel est votre regard jusqu'ici sur la campagne des municipales, hein ? On est à 12-13 jours du premier tour. Comment vous la sentez, cette campagne ?
Bah, y a quand même 6 listes qui se présentent sur Arras. Donc, elle se présente un peu corsée. Hein. Chacun veut la place de Monsieur Le Turc. Bah, en même temps, c'est le maire sortant, c'est le risque hein, quand on est sur le siège au municipal.
Oui, après, voilà, donc 6 listes. Après, non, ce qu'on peut regretter, c'est l'émiettement au niveau des forces de gauche.
Oui, je pense qu'on en parlera aussi quand on parlera des propositions.
Donc il n'y a pas de souci, vous pouvez nous interroger par rapport à ça. 6 listes, oui, alors après, nous, on va parler de notre liste. De toute façon, c'est une liste citoyenne. Voilà, on voulait absolument élargir. Enfin, on ne voulait pas faire une liste politique, on ne voulait pas faire une liste France Insoumise. De toute façon, il n'y a aucune liste France Insoumise réellement en France. Hein. Tout a été ouvert sur des listes citoyennes. Et au départ, on avait forcément des militants France Insoumise qui étaient sur la liste, mais qui se sont retirés au fur et à mesure que des personnes de la société civile arrivaient. Ce qui fait que maintenant, la France Insoumise n'est même plus majoritaire au niveau des 43.
Alors, voilà. Votre programme se compose de 57 engagements, un programme que vous présentez comme le fruit d'un travail collectif. 3 grands axes, l'environnement, le social et la démocratie. Alors, il y a certainement certaines des propositions qui recoupent plusieurs axes, et c'est notamment le cas de votre engagement numéro 1, le transport en commun gratuit. Pourquoi et comment on fait ?
Alors, tout à fait. En fait, chaque axe est indissociable des deux autres. Donc on a voulu faire en sorte qu'il y ait une corrélation entre chacun de ces axes, entre l'écologie, le social et la démocratie. On voit justement dans ce premier engagement qui est la gratuité des transports en commun. Alors au niveau écologique, bien sûr, ça va désengorger le centre-ville. Ça fera du coup, ça va réduire le taux de pollution sur Arras. Au niveau social, ça doit désenclaver les quartiers, par exemple comme Verlaine, qui sont un petit peu éloignés du centre-ville et qui doivent se réapproprier ce centre-ville parce qu'on s'est rendu compte que les gens ne se sentaient plus chez eux à Arras et au centre-ville. Ils sont chez eux à Verlaine, mais pas à Arras. Voilà, donc c'est un vrai problème. Pour l'emploi, c'est pareil. Ça va permettre aussi d'abattre un mur qui est aussi celui du transport qu'il faut payer. À un moment donné, le transport était gratuit, par exemple, pour les personnes aux revenus les plus modestes. Et il y a eu une augmentation de 15 euros quand même, ce qui n'est pas rien. Et le but, c'est justement de pouvoir offrir aux citoyens arageois cette possibilité de se déplacer gratuitement et pour le travail et pour faire une action écologique. Et on s'est rendu compte qu'à Dunkerque, au Bagne, où c'est déjà mis en place, ça fonctionnait vraiment bien. Je crois qu'à Aubagne, dès la première semaine, ils ont eu une augmentation de 75% des fréquentations quand même, hein, ce qui n'est pas rien. Et sur le marché, à Arras, j'ai rencontré un monsieur qui était de Dunkerque, qui me disait, au début j'étais contre, et je me suis rendu compte qu'en fait, ça crée même du lien social. Et le but, eh ben, il est là. Nous, dans notre... Dans notre programme, ce qu'on veut vraiment, c'est ça, c'est faire du lien social, que les gens renouent entre eux et vraiment s'occuper de l'humain. S'occuper de l'humain, mais aussi à travers l'écologie et la démocratie. Mmh. Voilà.
Alors, et quant au financement, parce que vous posez une question sur le financement, voilà, il faut savoir qu'actuellement, bon, c'est vrai que c'est la taxe du versement transport qui est faite par les entreprises de plus de 11 salariés, qu'actuellement le taux est de 0,95% sur Arras. On peut l'augmenter donc à 1%, donc ce qui ferait déjà une manne financière supplémentaire. Savoir que aujourd'hui, bon, ça rapporte grosso modo à peu près 11 millions de francs, cette taxe de transport sur
d'euros.
Arras.
Hein.
D'euros, pardon, excuse-moi. ensuite, le budget annuel par rapport à ce fonctionnement, en tout cas au niveau des transports sur Arras, ça représente à peu près 21 millions d'euros. Alors comment le financer? Bah oui, la question est là. De toute façon, on peut espérer, et ça je suis pas le seul à le dire, mais récupérer une partie de ce qu'on pourrait récupérer au niveau d'Aquarena. Hein, on est au niveau des travaux, enfin des malfaçons réalisées au niveau de la piscine Aquarena, et l'affaire a été portée en justice. Là, on pourrait récupérer une manne financière de 9 millions d'euros. Si on augmente de 0,5% cette taxe transport, ça viendra encore compléter. Et puis, savoir que donc les 9 millions qu'on pourrait récupérer d'Aquarena, plus les 11 millions de la taxe transport, 20 millions, ça correspond à peu près au budget annuel. On pourrait donc la première année déjà pouvoir assumer cette gratuité dans les transports.
Aquarena, on ne les aura pas tous les ans, je pense.
On ne les aura pas tous les ans. Mais après, c'est clair, après, au niveau de l'exploitation, tout ce qui est tickets et compagnie, c'est des choses qui ne seront plus à faire puisque les transports seront gratuits.
L'imprimerie des tickets.
L'imprimerie, c'est déjà une manne financière qu'on peut récupérer. Et après, je pense que avoir aussi au niveau de cette taxe transport. Quoi. Après, c'est au niveau communautaire également que ça se décide. Ce n'est pas uniquement au niveau d'Arras.
Sachant que les entreprises jouent le jeu, c'est aussi c'est aussi un peu pour eux, parce que tous les bus, par exemple, toutes les lignes qui partent de la gare vont à Auchan, vont à Leclerc, vont au niveau des centres commerciaux. Donc plus il y a la possibilité d'amener les gens, et ça devrait aussi pouvoir arranger, on devrait tous être gagnants dans cette mesure.
Alors justement, la gratuité des transports, c'est ce que j'allais y venir, c'est une compétence communautaire. Je ne pense pas que justement récupérer l'argent de l'Aquarena, ça soit possible, parce qu'a priori, ce sont des budgets distincts. Enfin, ce n'est pas a priori, ce sont des budgets distincts.
Budgets distincts, mais il est question que les piscines passent sous mandat communautaire.
Effectivement. Quel est votre regard justement sur l'intercommunalité, sur le fonctionnement du conseil communautaire aujourd'hui?
Nous déjà, ce qui nous gêne, c'est que quelqu'un, alors nous c'est dans le cadre aussi de nos mesures au niveau démocratie, c'est un mandat et un seul. Donc ça nous paraît, donc déjà pour nous, c'est hors de question que quelqu'un qui est maire, qu'en tout cas par exemple le maire d'Arras puisse assurer en tout cas cette fonction de président de la CUA. Alors, je ne sais pas si c'est dans ses intentions, mais je pense que peut-être qu'en se rasant tous les matins, je pense quand même que M. Le Turc doit y penser. Après, le fonctionnement, moi, je ne sais pas. J'ai l'impression que les maires des petites communes sont un peu écrasés par le poids que représente Arras. Et que même lorsqu'on regarde l'ensemble des travaux, des investissements qui sont réalisés sur Arras, la manne financière émane beaucoup de la communauté urbaine d'Arras. Au détriment certainement d'autres communes qui ont certainement des projets intéressants, innovants, qui sont peut-être laissés un peu sur le côté à l'heure actuelle pour favoriser justement les investissements sur Arras.
Alors je reviens sur les propositions en matière d'écologie. Une des propositions, c'est celle d'une cuisine communautaire. Alors c'est quoi une cuisine communautaire?
Alors, cuisine communautaire, c'est pas une cuisine communautariste, hein, je vais le signaler tout de suite pour que les choses soient claires, quoi. Hein, parce que nous, le communautarisme, il est hors de question de ça. Nous, on respecte les principes de laïcité jusqu'au bout. Comme par exemple, on a vu au dernier conseil, l'occasion de rebondir sur également une décision au niveau de la CUA, qu'il y a à avoir des jardins partagés, mais en lien avec une mosquée. Alors, moi, je veux bien, mais alors ce mélange du public avec le cultuel, moi, c'est quelque chose qui me gêne énormément. Voilà. Et moi, après, on va peut-être me reprocher, non pas d'être laïque, mais d'être laïciste. Donc un laïc plus. Mais pour moi, c'est la séparation, en tout cas. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui me choque énormément. Pour revenir à votre question, donc la cuisine communautaire, c'est justement, dans les différents quartiers, mettre à disposition... Dans les centres sociaux, par exemple sur la maison de quartier Marie-Thérèse Lenoir, sur le centre social Torchy, des ateliers, alors non pas d'apprentissage, mais pour montrer aux personnes que l'apprentissage du bio, en fin de compte, ne revient pas plus cher que cuisiner avec les produits issus de là où ils font leurs courses.
Quelle que soit sa condition, en fait, on peut manger mieux. Ouais. Et le but, c'est ça, c'est d'essayer de faire des ateliers, de mettre en place des ateliers pour les familles, les parents. Alors, c'est aussi des ateliers de finances, comment acheter bio, mais sans se ruiner. Convaincre les gens qu'acheter deux poireaux à Carrefour, ça revient pas moins cher que d'acheter deux poireaux bio au marché et ainsi d'accompagner les personnes en revenus modestes à s'intéresser à l'alimentation et à changer au fur et à mesure leur façon de consommer. Voilà.
Puis moi, ça me fait également un rappel par rapport à ce que j'ai pu connaître auparavant dans le milieu de la formation, ce qu'on appelait auparavant les réseaux d'échange réciproque des savoirs. C'est-à-dire que même dans la façon de cuisiner, sur ces produits en question, peut-être intéressant d'échanger entre personnes du même quartier les façons d'appréhender ces plats, de les préparer. Voilà. Nous, au niveau culturel, enfin, on voudrait surtout insister également au niveau d'éducation permanente, en quelque sorte.
Créer du lien.
Et je pense que ça, c'est aussi un moyen de créer du lien sous une forme d'éducation permanente en s'appuyant sur les compétences et les savoirs des habitants des différents quartiers.
Oui, moi, j'ai envie de poser la question tout de suite. Vous avez un programme quand même qui est... bien construit autour de l'écologie, du bio, vous avez de louables intentions en la matière. Qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas eu une alliance possible avec les écologistes ?
Alors, on va jouer franc jeu. Hein.
On a essayé une fois, on a discuté, on a essayé deux fois, ça n'a pas fonctionné, on a essayé trois fois. On a envoyé un courrier, on s'est tous mis d'accord, on a fait tout ce qu'on a pu, et ben non. On a eu un retour négatif. Alors pourquoi ? Est-ce qu'ils ont eu peur ? Est-ce qu'ils ont eu peur pour leur électorat ? Serait-il pas vraiment le même ? Est-ce qu'ils n'ont pas bien saisi la nature de nos engagements ? Peut-être, hein ? Peut-être qu'ils... Voilà. Cela dit, aujourd'hui, on est quand même... on reste en bonne relation. On est très courtois les uns envers les autres.
Voilà. Après, c'est vrai ce qu'avait dit M. Cousin lors de cette réunion. Hein. M. Cousin nous avait dit effectivement... On a eu une expérience malheureuse sur l'exercice précédent au niveau des élections sur Arras. Et donc, il ne tenait pas trop à renouveler ce type d'expérience avec une autre composante politique. Bon, même si après, ils ont pris Génération avec eux. Quoi, Génération, c'est avec M. Détourné, voilà. Après, bon, libre à eux, c'est leur choix. Alors, tout à l'heure, je parlais d'émiettement des forces de gauche, effectivement. Puisque, comme vous tentez de le souligner, c'est que entre les deux programmes, il n'y a pas énormément d'écart au niveau écologique. Voilà, c'est pour ça que nous, on trouve ça un peu dommageable. Après, c'est leur choix. Nous, on est allés trois fois à leur rencontre. Bon, après, on ne peut pas non plus passer notre temps, notre chose à faire, que de les contacter régulièrement, quoi.
Voilà. Il y a beaucoup de propositions écolo dans votre programme, dans celui d'Arras Écologie, bien sûr, mais il y a aussi pas mal de propositions dans le programme de la liste Arras pour vous, hein, emmené par le maire sortant Fred Aluturc. Comment vous voyez cette verdisation peut-être du programme de Monsieur Aluturc? Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'au niveau national, c'est un peu vrai partout. Hein. Il y a beaucoup de programmes qui proposent beaucoup de choses écolo.
Écoutez...
Moi, c'est ce que j'allais dire. Aujourd'hui, si dans le programme d'un maire, il n'y a pas de l'écologie, ce n'est pas normal. Parce qu'il faut répondre à une urgence climatique. Et celui qui ne le fait pas, c'est qu'il est à côté de ses pompes, excusez-moi. Donc l'écologie, c'est une chose, on va tous s'en servir, mais je pense qu'il n'y a pas que ça, justement. Et c'est pour ça que, personnellement, nous, on a insisté aussi sur le côté social et le côté démocratique de nos engagements. L'écologie, c'est une chose, mais en fait, c'est normal, c'est une urgence. Tout le monde doit répondre aux problèmes, et aujourd'hui, on ne peut plus passer outre et fermer les yeux.
Après, moi, je dirais, j'ai lu attentivement La Voix du Nord, l'édition de dimanche, il me semble, où il y avait un compte-rendu par rapport présentation de la liste de M. Le Turc avec ses différents axes sur le programme. À la lecture de ce que j'ai pu en retirer, en tout cas, c'est que bon, ça se fait un peu sur le tard, que les axes n'ont pas l'air trop décidés. J'ai l'impression qu'il fait du vert parce qu'on doit faire du vert, quoi. Hein, et lorsqu'on va à la rencontre des différents habitants dans les quartiers, et nous hier on était encore sur le marché Verlaine hier matin à 10h30 et comme les dimanches précédents, quelles que soient les conditions climatiques et les tempêtes et les rafales de vent et de pluie.
Et la neige.
Et la neige.
Et la neige, oui. C'est que, en tout cas, ce qui ressort des habitants, c'est que par exemple la place Verlaine, ils nous disent franchement, elle n'est jamais aussi belle, entretenue, décorée, ornée, que lorsqu'il y a par exemple la fête aux Grandes Prairies, où les gens viennent se garer. Voilà. Donc c'est de l'écologie ponctuelle, dans des circonstances particulières, occasionnelles. Je pense que, oui, effectivement, comme je disais, il s'est mis au vert parce qu'il faut se mettre au vert. Quoi. Voilà. Mais je ne pense pas que ce soit l'une de ses priorités.
On est toujours avec Robert Rocher et Natacha Galiego de la liste Décidée pour Arras, liste citoyenne soutenue par la France Insoumise. On évoque maintenant quelques éléments peut-être du volet social de votre programme. Alors le point qui est mis en avant en premier lieu, c'est la rénovation des logements. Lors de vos visites, de vos rencontres avec les Arageois, vous avez constaté des problèmes dans ce domaine ?
Oui, tout à fait. Alors moi, sur le marché de Verlaine, justement. Ah non, même pas, c'était au Blanc-Mont. J'ai rencontré même une dame qui est venue me voir avec son téléphone portable pour me montrer des photos de son appartement. Elle habite la route de Bapaume, excusez-moi. Mais ce n'est pas la seule, en fait. Hein. Ce n'est pas un cas isolé. Hein. Il n'y a pas que sur la route de Bapaume où les appartements sont dans cet état. En faisant du porte-à-porte de ce côté-là, hein, c'était vraiment scandaleux. Et sur Verlaine, il y a aussi des bâtiments qui sont dans un état insalubre assez alarmant. Alors c'est alarmant pour les habitants, parce que ça apporte un problème sanitaire pour les jeunes enfants, par exemple, des otites, des bronchites chroniques à répétition, etc. Et même pour tout le reste de la famille, tout le monde en pâtit. Et de plus, il faut arrêter absolument la prolifération des champignons. Parce que les champignons qui vont se mettre dans les quartiers, ils se mettent dans les murs et ils vont se proliférer sur tout le quartier. Et une fois que ce sera fait, on ne pourra plus rien faire. Voilà. C'est maintenant qu'il faut intervenir. Alors aujourd'hui, on nous dit, oui, mais on aide les gens quand même. On leur donne des pots de peinture. Donner un pot de peinture, ça n'arrange pas le problème de l'humidité. On repasse dessus, on remet un coup de blanc. Et puis, allez, à la fin de l'année, les champignons ressortent, la moisissure ressort. Voilà. Ce qu'il faut, c'est traiter l'isolation. Encore une fois, c'est une mesure aussi bien sociale que écologique. Voilà, parce que on évite des pertes d'énergie et puis on réfléchit intelligemment au problème.
Et tout le monde s'y retrouve. Hein, parce que s'il y a des pertes au niveau énergétique, les gens vont payer davantage au niveau de la facture chauffage. Comme on est sur des quartiers où les gens sont en grande difficulté, il y aura peut-être des difficultés ensuite pour payer le loyer. Donc le bailleur social sera gêné de ce côté-là parce qu'il n'y aura pas sa rentrée d'argent. Donc nous, ce qu'on voudrait effectivement, c'est renforcer ce lien avec les bailleurs sociaux. Pour moi, un bailleur social, ce n'est pas uniquement un locatif de logement, quoi. Il doit aussi avoir dans sa démarche un accompagnement, que ce soit même donc écologique également, si jamais il y a de nouvelles constructions, en respectant les nouvelles normes énergétiques. Mais je pense qu'en tout cas, son rôle, ce n'est pas uniquement mettre à disposition des appartements à un public, toucher les loyers, filer un pot de peinture de temps en temps. Non, il y a toute une démarche également. Mais ça, il faut le renforcer également avec la mairie, avec les MDS, les assistantes sociales de la mairie. Voilà, c'est un travail qui se fait en commun.
En commun.
Sur le volet social, Hubert ?
Oui, il y a un grand programme de recomposition, de reconfiguration, de rénovation des quartiers, justement, qui est engagé. Alors, certains diront que ça arrive un peu tardivement, qu'on a pensé beaucoup au centre, ville d'Arras, et pas suffisamment au quartier. Alors là, on éclot des grands programmes sur les friches Chériot, sur les friches d'hydro, bientôt Saint-Michel, les travaux sont imminents. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Est-ce que vous meneriez ces projets de la même façon qu'ils sont menés aujourd'hui ?
Alors, je pense que nous, il faut dire qu'on est contre la bétonisation à outrance au niveau d'Arras. C'est clair que là, on est sur le dada de monsieur Le Turc qui est de construire. Non, nous, on n'est pas sur cette logique-là de bétonisation. Ensuite, je pense que les logements sociaux, oui, effectivement, il en faut, mais je pense qu'il faut aussi réfléchir où et comment on va les faire. Voilà.
Oui, les travaux qui arrivent là pour Saint-Michel, ils étaient urgents, ils étaient obligatoires, il fallait absolument aider les personnes. Et puis déjà depuis quelque temps, le gouvernement, dans une logique aussi d'essayer de lutter contre la ghettoisation, le but c'est de casser un peu ces HLM, ces anciennes cités dortoirs, et puis de faire des appartements plus peu, des bâtiments plus petits. Avec du coup peut-être une meilleure sécurité. Alors bien sûr, dans ces cas-là, on va suivre le mouvement parce que de toute façon, ça c'est une bonne chose. Voilà, c'était obligatoire. Et nous, notre but, c'est justement d'aider les personnes qui sont dans cette situation. Après, voilà, comme l'a dit Robert, on n'est pas pour une... on voudrait éviter qu'il y ait trop de béton partout. Mais là, c'est encore un travail qu'on fera en amont avec les habitants, en leur faisant réaliser aussi l'importance. Et puis en les incitant à mettre de la verdure, à planter des fleurs.
Mais par contre, effectivement, par rapport aux habitants, c'est pour ça que nous, dans notre volet démocratique, il y a ce référendum d'initiative au niveau local. Moi, l'exemple qui vient, alors c'est pas sur un problème d'urbanisme, c'est plus sur un problème de stationnement. Je repense au stationnement sur Arras Sud, parce que moi, je suis résident sur Arras Sud, avenue Lobdet, et je me souviens de cette réunion au collège Marie Curie un soir, où c'était une réunion préparatoire par rapport à ces fameuses zones bleues qui devaient être mises en place, où en fin de compte, on fait semblant d'écouter la population. On arrive avec un projet clé en main, qu'on garde sous le coude. On fait semblant d'écouter, effectivement, on prend des notes, oui, mais y a toujours un mais. Voilà. Et à la fin, on se retrouve avec le projet qui a été amené par la municipalité. Voilà. Je pense que là, par exemple, sur le stationnement, alors peut-être intéressant de consulter la population par l'intermédiaire d'une consultation citoyenne.
Alors pourtant, Frédéric Lauture, que... vante beaucoup sa démocratie participative.
Oui,
vous pensez qu'elle est fausse, cette façade ?
Alors, il vante sa démocratie participative. Moi, je pense que oui, effectivement, c'est de la poudre aux yeux. C'est faire semblant d'intéresser la population, que la population s'approprie une part de décision. Mais en fin de compte, c'est pipeau, tout est décidé en amont. Ensuite, il me semble que justement cette façade de bonhomie, d'écoute, tout ça, c'est quelque chose que par exemple au conseil municipal, on ne retrouve absolument pas. J'ai jamais vu, et on y va souvent au conseil municipal, on y assiste régulièrement, mais alors qu'ils ne supportent absolument pas
la contradiction,
un avis différent. Et il peut être blessant, cassant, sec, un monarque. Voilà, le petit monarque qui règne sur sa cité. Alors, c'est peut-être vous avez peut-être trouvé ça un peu outrancier, mais je vous assure, assister à un conseil municipal, et je prends le dernier en exemple ce qui s'est passé sur l'abbaye Saint-Va, ou par rapport à la composition du jury, enfin en tout cas de ceux qui pouvaient participer au niveau des élus, c'était quand même assez costaud.
Alors justement, l'abbaye Saint-Va, on va en parler parce que vous en avez fait très tôt un sujet de campagne, et puis dans votre liste, il y a plusieurs membres, me semble-t-il, de ce collectif, hein, les amis de l'abbaye Saint-Va. Alors, qu'est-ce qui vous choque en deux mots, hein, parce qu'on va pas, on peut en parler des heures, je pense, de l'abbaye Saint-Va. Mais qu'est-ce que vous critiquez et qu'est-ce que vous proposez, vous, à la place du projet d'hôtel de luxe à l'abbaye Saint-Va ?
Si vous voulez réponse courte, à ce moment-là, je vais laisser parler Natacha, parce que...
Je vais essayer. Réponse courte, déjà, patrimoine qui appartient aux Arageois ? Donc, on aurait dû déjà consulter les Arageois avant de prendre une décision pareille. Un lieu qui se trouve au milieu entre un musée et une médiathèque. Donc, un hôtel de luxe avec voiturier, comme on nous l'a annoncé. Je ne sais pas. Alors, une fois, j'ai participé, moi, à une réunion de quartier. Et j'ai entendu un monsieur qui a demandé à monsieur le maire, pourquoi il n'y a pas Zara et toutes ces grandes enseignes qui viennent chez nous ? Et monsieur le maire a dit, tout simplement parce qu'on n'a pas la clientèle. Et du coup, non, ils ne veulent pas venir s'installer chez nous. Du coup, je suppose alors qu'on n'aura jamais la clientèle pour cet hôtel de luxe. Donc, c'est encore une fois, c'est de la poudre aux yeux. On nous dit que c'est pour la restauration qui va coûter trop cher, alors que finalement, la restauration, elle revient, quoi qu'il arrive, à la municipalité.
Moi, je considère ça, après, c'est ma formule toute faite. Moi, je considère ça, ça fait partie du tout à l'ego de monsieur Le Turc.
Un jeu de mots, tout à l'ego.
Rien d'autre, tout à l'ego, simplement.
Après, c'est bon, ça, pour la voix du Nord, ça.
Je dirais qu'avec un bâtiment comme ça, il y a beaucoup de choses à faire dans la réflexion avec les citoyens. Sur Rennes, ils ont eu le même problème. Ils en ont fait un laboratoire d'expérience pour toutes les associations. Chacun peut arriver avec un projet, le mettre en place et ensuite il y aura une réflexion avec les habitants autour de que ferons-nous de ce lieu. Mais en attendant, le lieu, il vit, il existe et c'est ce qu'on aimerait mettre en place.
Alors Arras a un peu le défaut, pour revenir à ce sujet, Arras a un peu le défaut de ses qualités, c'est-à-dire qu'on a un très riche patrimoine, mais qui est très coûteux à entretenir. Alors est-ce que, vous disiez tout à l'heure que ça vous dérangeait qu'il y ait un partenariat public et communautariste quand on parlait d'autre chose par ailleurs. Là, le partenariat public-privé, c'est quelque chose qui est rédhibitoire pour vous.
Ah ça c'est clair, nous tout ce qui est, alors que ce soit aussi bien des délégations de services publics, que ce type de montage, ça c'est clair, pour nous c'est rédhibitoire. Hein, moi ça me fait penser, vous voyez, ADP, Aéroport de Paris, on privatise. SNCF, on est sur une voie de privatisation. Ben là on se retrouve dans la même situation. Ça on est sur un mode de fonctionnement et de raisonnement de l'ultralibéralisme, qui est bien représenté par M. Le Turc, qui hier, n'oublions pas, a soutenu par courrier la politique de M. Macron. M. Macron qui, je rappelle aux auditeurs, le 49-3 sur les retraites. Donc indirectement, M. Le Turc soutient M. Macron sur le plan des retraites. Voilà. Et ça, c'est clair que nous, au niveau d'une municipalité, on sera toujours à côté des travailleurs, des salariés, au niveau des luttes.
Nous, on veut servir les habitants et les citoyens. Et si ça ne leur sert pas, bah...
Voilà. Alors, pas de délégation de services publics, pas de partenariat public-privé, mais, et c'est un peu ce qu'on peut reprocher à votre programme et à d'autres programmes aussi, c'est que, au niveau financier, est-ce que c'est jouable, est-ce que c'est réaliste, quoi, les propositions que vous avez.
C'est réaliste, je pense qu'il y aura certaines économies à faire dans divers secteurs, je pense qu'il y aura un mode, au niveau des investissements, certaines choses à revoir, hein. Et donc une politique tout autre au niveau des investissements, peut-être privilégier un peu plus d'autres quartiers par rapport au centre. Nous, on préconise également, alors ce ne sera pas non plus des économies qui vont se chiffrer en millions d'euros, mais je pense par exemple que nous, ce qu'on voudrait, c'est que les adjoints et les conseillers municipaux délégués qui touchent une indemnité, cette dernière soit versée au prorata du taux de présence. Voilà.
Il y a des économies à faire, là.
Il y a des économies à faire, hein, parce que je veux dire, le conseil municipal, il y a tout. Alors, pour X raisons. Alors, après, c'est clair, si on est malade, souffrant, un enfant malade, moi, j'entends parfaitement qu'on reste chez soi. Mais si le même soir, il y a un match à Bollard et qu'on n'assiste pas au conseil municipal, moi, ça me fait doucement marrer. Hein. On a été élu pour participer à la vie locale. Donc, c'est clair, c'est son mandat et on le respecte.
Pardon ? Vous avez des noms ?
Non.
Lens, c'est important quand même.
La délation n'est pas un devoir civique. Voilà. Ça rappellerait certaines heures qui ne sont pas glorieuses pour notre pays.
Exactement.
Robert Rocher, Natacha Galiego au micro de Radio PFM avec la collaboration d'Hubert Ferret, journaliste et chef de rédaction adjoint à La Voix du Nord Arras. Retrouvez cette interview dans son intégralité sur notre site radiopfm.com. Retrouvez aussi un compte-rendu écrit dans les pages de La Voix du Nord dans l'édition d'aujourd'hui. Depuis toute cette semaine, vous retrouverez dans ce magazine Info 30 et dans les pages de La Voix du Nord des interviews des candidats des 5 autres listes aux municipales à Arras.